Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dédiée au réseau des fake news. Cette émission découle du forum des médias jeunes de décembre 2020, dans lequel plusieurs intervenants ont participé à nous expliquer pourquoi les fake news prolifèrent autant, pourquoi nous sommes nombreux à être déjà tombés dans leur piège et quels sont les moyens de les contrer. Pour commencer cette émission, je vais vous donner quelques éléments sur les fake news, leur ancienneté et pourquoi elles sont utilisées. Je vais vous faire le récit d'une histoire dont vous avez forcément entendu parler, mais dont vous ignorez sûrement le rôle qu'ont joué les fake news dedans. Il est considéré comme le premier tueur en série de l'histoire, et c'est sûrement le plus connu. Je parlais du célèbre Jack l'Éventreur. Lorsque l'on parle de cette affaire, on a en tête deux éléments qui ont fait son mythe. L'acharnement de Jack l'Éventreur envers les prostituées londoniennes, et le flot incessant de lettres signées Jack l'Éventreur qui submergea la police. Mais la vérité est que ces deux points ont été construits de toutes pièces par des fake news. Pour vous remettre dans le contexte de l'époque, les crimes de Jack l'Éventreur ont lieu en 1888 dans le district londonien de Whitechapel. En pleine crise migratoire, il devint de plus en plus surpeuplé. Les logements et les conditions de travail se détériorèrent, les vols, la violence et l'alcoolisme devinrent communs. Au sein de cette classe économique défavorisée, de nombreuses femmes se prostituaient donc pour assurer leur survie. Lorsque la série de meurtres arriva dans ce district, la presse présenta les victimes comme des prostituées. Personne ne se posera donc plus de questions sur l'identité des victimes et on les désigna comme telles. C'est seulement en 2005 que Hallie Rubenhold, historienne de la prostitution, lors de ses recherches pour l'écriture de son livre sur ce milieu, déclara « Je me suis demandé, qui sont les travailleuses du sexe les plus connues du 19e siècle ?» Réponse, les victimes de Jack l'Éventreur. J'étais très surprise de découvrir qu'il n'y avait aucune preuve qui permettait de suggérer que trois d'entre elles étaient des travailleuses du sexe. Après d'innombrables recherches auprès de documents, de rapports de police et de témoignages de l'époque, elle en conclut qu'une seule des victimes de Jack l'Éventreur était véritablement une travailleuse du sexe. Si la presse a rapidement décrété que les victimes étaient des prostituées, c'était parce que le terme était alors employé à tort et à travers à l'époque. Et il faut se dire qu'une histoire de tueur de prostituées, cela suscite de la curiosité et fait vendre des journaux. Qu'en est-il des lettres maintenant ? Dans la première lettre, intitulée « Dear Boss », reçue par l'agence de presse Central News de Londres, le meurtrier y narguait la police. Un mois plus tard, une seconde lettre, signée Jack the Ripper, a également été envoyée à l'un des enquêteurs de la police britannique. Intitulée « From Hell », l'auteur donne des détails sordides sur la manière dont il a pris la vie d'une de ses victimes. Au total, près de 200 lettres au contenu glaçant ont été reçues par la police et la presse. Ces lettres ont récemment été rendues publiques. Un chercheur de l'université de Manchester les a étudiées. Pour ce linguiste légiste, on ne saura probablement jamais si le meurtrier est l'auteur de l'une d'entre elles. Mais le chercheur a trouvé des preuves historiques que les premiers écrits étaient, en réalité, de la responsabilité de journalistes peu scrupuleux. À l'époque, en effet, la police avait interpellé deux journalistes qui avaient fini par avouer l'escroquerie. Ils voulaient maintenir l'affaire en vie. Ils savaient que créer un feuilleton sur l'affaire Jack l'Éventreur permettrait de vendre plus de journaux. Ainsi, l'affaire de Jack l'Éventreur est devenue un mythe moderne à force d'hypothèses, de sensationnalisme et de mystère. Et, vous l'avez compris, même si le terme « fake news » a été popularisé très récemment, les fausses nouvelles, elles, ne datent pas d'hier. Mais si les fake news peuvent être utilisées dans la presse pour faire vendre grâce au sensationnalisme, elles sont souvent utilisées à des fins politiques, usant de désinformation ou de réinformation. On peut citer notamment l'exemple de l'incendie du Reichstag du 27 février 1933, où les nazis ont immédiatement exploité l'événement en présentant l'incendie comme le signe avant-coureur d'un vaste complot communiste. Ou plus récemment, en 2016, lorsque des internautes conservateurs, proches de l'alt-right, ont usé de fake news complotistes lors de l'affaire du Pizzagate afin de décrédibiliser les Clinton. En 2020, encore, avec la sortie du documentaire Hold Up, Retour sur un chaos, des fake news ont été utilisées pour discréditer le gouvernement français sur leur gestion de la crise sanitaire. On l'a vu, il s'agit d'un procédé de tentative de déstabilisation politique courant. Mais pourtant, à chaque fois, de nombreux citoyens se font avoir. Comment l'esprit humain se trompe aussi régulièrement face à ses préjugés ? Thomas Durand, cofondateur de l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, alias Asserman Dax, sur sa chaîne YouTube La Tronche en Biais, nous éclaire sur nos biais cognitifs.
Puis on a des biais d'influence et de désirabilité sociale, c'est-à-dire que c'est vachement sympa de dire « moi je connais quelqu'un, c'est un rebouteux, avec un massage énergétique, il peut passer l'initiatique, c'est cool, c'est bien ». C'est moins valorisant de dire qu'on croit à la Terre plate, parce qu'on passe pour un con beaucoup plus vite. Donc il y a des certaines idées qui vont pouvoir passer parce que socialement elles sont plus acceptables. Et puis on a tout ce qui va être angoisse, alors diverses et variées. On croit davantage à certaines choses plutôt qu'à d'autres parce que c'est beaucoup moins angoissant d'accepter pour vrai des choses qui coïncident avec comment on voit le monde. En tout ça, un cerveau qui fonctionne parfaitement bien, il est embarqué avec tout ça. Donc c'est plein de raisons pour lesquelles on va arriver à des conclusions plus ou moins fausses ou plus ou moins éloignées de la vérité, tout en raisonnant comme un humain normal. Et donc au-dessus de ça, on peut rajouter plein de pathologies ou plein de problèmes en plus, mais déjà quelqu'un qui fonctionne bien, il est comme ça. Donc ça peut être un peu embêtant. Et donc le cerveau humain n'est pas rationnel dans le sens où souvent on l'utilise d'être rationnel dans le sens où croire des choses vraies pour de bonnes raisons. Parce que le cerveau, sa priorité, c'est de nous garder en vie. Et pour nous garder en vie, ce n'est pas grave si on se plante de temps en temps, dès l'instant qu'on est capable de faire un certain nombre de choses rapidement et de manière efficace. Et donc, il faut distinguer deux dimensions, qui sont l'intelligence et la rationalité, qui sont des notions très compliquées que je ne vais pas définir aujourd'hui parce que c'est trop dur. Mais si on voulait essayer de définir en gros ce que c'est que l'intelligence, c'est la capacité à faire des opérations mentales avec sa certaine fluidité. Donc on a la rapidité, la fluidité, on a éventuellement les capacités de mémoire, la maîtrise du langage, et puis on aura d'autres dimensions comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence interpersonnelle. Donc tout ça, c'est des notions assez dures à définir. Bien souvent, on réduit tout ça à un chiffre qui est le QI. Évidemment, ce n'est pas suffisant, mais c'est une approximation qui est moins mauvaise que d'autres, donc on peut dire ça. Donc voilà, ça c'est être intelligent, c'est faire des opérations mentales de manière efficace. Et puis être rationnel, c'est autre chose, et c'est encore plus dur à définir, c'est plus compliqué, parce que être rationnel, ça veut dire qu'on est logique, mais pas tout, parce qu'on peut être parfaitement logique et être un peu irrationnel. C'est être cohérent par rapport à ce au corpus de faits qu'on en avait pour vrai, mais c'est aussi être cohérent avec ce qui se passe, donc avec le monde réel. Et donc on a différents types de rationalité, notamment la rationalité instrumentale, qui est être capable de mettre en adéquation nos buts avec les moyens qu'on met en œuvre. Si mon but, c'est de tous les roues dans un camp, parce que je préfère qu'ils sortent parce que je les aime pas, alors prendre tous les roues et les mettre dans un camp, tout ce que je ferai dans ce but sera rationnel dans ce sens-là. Pas forcément la bonne chose à faire. Et puis, par rapport aux valeurs, si mon but est d'être humaniste, eh ben, je ne vais pas faire ça. Je vais faire autre chose que mettre les gens dans le camp. Et c'est aussi rationnel. Donc après, il faut voir comment on définit les termes. Bien souvent, la rationalité telle que nous, on la, qu'on utilise lorsqu'on parle de secret éthique, c'est la rationalité épistémique, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une démarche qui nous rapproche davantage d'une connaissance plus exacte du monde plutôt que l'inverse. Alors, c'est un peu flou, évidemment. Et donc, si je veux résumer ces deux notions d'intelligence et de rationalité avec des métaphores, j'aime bien dire que être intelligent, c'est avoir un gros moteur dans votre sous votre capot. Être rationnel, c'est avoir un bon frein. Et là, la nuance, elle apparaît beaucoup plus forte, à savoir qu'on peut être hyper intelligent et aller très loin très vite, mais si on n'a pas un bon frein, on n'est pas sûr d'arriver là où on veut aller. On peut taper dans le mur. Et plus on est intelligent, plus on est capable de trouver des mauvaises excuses, des mauvaises raisons de penser ce qu'on pense déjà. Et donc, on peut avoir des gens brillants qui croient des choses folles ou complètement absurdes, mais qui trouvent des ressources rhétoriques et qui vont fouiller pour trouver des faits qui leur donnent raison quand même. Et donc, comme il n'y a pas de force intrinsèque du vrai, il y a la force de la rhétorique.
On sait désormais pourquoi nous sommes attirés par les fake news et les raisons de notre naïveté face à elles. Mais comment fonctionnent les mécanismes des algorithmes des réseaux sociaux qui permettent la diffusion des intox ?
Il ne faut pas oublier que réseaux sociaux incluent le mot social. Et il y a d'un côté des plateformes qui ne sont pas neutres, et on verra comment, on essaiera de voir un petit peu sans pour autant avoir toutes les informations, mais on verra que ces plateformes ne sont pas neutres parce que justement, elles ont été programmées avec une intention. Et puis de l'autre côté, il y a des humains. Donc, et il est aussi important de prendre en compte le fait que ce sont des humains et que quand on focalise sur les questions des réseaux sociaux et on diabolise les réseaux sociaux, si les humains avaient des attitudes irréprochables, c'est-à-dire avec le regard critique de ce qu'ils partagent, une capacité à être... à soigner une ligne éditoriale qui respecte un certain nombre de règles, on ne se poserait pas ces questions-là. Les plateformes ne peuvent pas tout faire et c'est les humains avant tout qui font des choses. Et donc, dans les petites choses que je voulais en préambule donner aussi, c'est qu'il n'y a pas une vérité intrinsèque, une force intrinsèque à la vérité. C'est-à-dire qu'on a toujours plus facile et ce qui est demi-savoir triomphe toujours plus facilement que le savoir complet. Ça, c'est notre ami Nietzsche qui a rappelé ça. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile d'accorder à une partie de l'information une force plutôt que à l'information dans son ensemble, qui, elle, demande une énergie, demande un investissement et demande du travail de l'individu pour y voir la réalité et la complexité des choses. Donc, il est toujours plus facile de partager quelque chose qui est de l'ordre du demi-savoir qui vient servir mes convictions plutôt que de se donner le temps de voir la réalité de ce qui est disponible et faire le tri, critiquer et prendre le temps nécessaire, donc de l'énergie pour regarder tout ça. L'autre point qui est important, c'est que on a aujourd'hui, du point de vue plus éducatif, on se trouve face à une massification, c'est-à-dire que l'information est massive, c'est-à-dire que la production d'information dont nous sommes responsables, mais également qui est retransférée par les différents réseaux, elle est inépuisable. Et si je prends l'exemple de Facebook, par exemple, il y a une stratégie qui est assez simple, en fait. Vous avez publié l'information. On a, au niveau du contenu, il y a une analyse du contenu qui est faite. Il y a des contenus qui ne passeront pas. Et là, je vous invite évidemment à lire les conditions générales d'utilisation de Facebook et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Après, le post est montré à 1% des fans. Et puis, en fonction des commentaires, il y a des scores qui sont affectés. D'accord ? Et donc, ce qui fait qu'une fois que vous avez publié quelque chose, vous allez avoir des points pour les j'aime, pour les commentaires détaillés. Vous avez le détail dans ces trucs-là. Et donc, si c'est une vidéo, combien de temps elle a été visionnée, etc. Et donc, il y a des scores qui sont publiés. Et en fonction du score, le post va être considéré comme plus ou moins important. Et donc, si le score est négatif ou est pas suffisamment élevé, ben votre publication ne sera pas prise en compte par Facebook, donc ne sera pas poussée dans les fils d'actualité des individus.
C'était l'explication de Samuel Nowakowski, maître de conférence à l'Université de Lorraine et chercheur au laboratoire Lorrain d'informatique et ses applications. Univox. Draw.
nothing in it for me, except my heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop calling, it's time to let me be. If you think you can save me, I dare you to
sur Radio Campus.
De nos jours, les informations sont très peu maîtrisables à la vitesse où elles vont. Les fake news sont-elles des rumeurs à l'échelle des réseaux sociaux ?
Je trouve qu'on dramatise le faux dans le milieu médiatique et on en fait quelque chose de... On en fait peut-être un peu trop. On s'en fait peut-être un peu trop, mais on va voir. Alors, je vous donne quelques exemples, évidemment, en lien avec l'actualité. Toutes les fake news, les rumeurs, les intox autour de la Covid-19 sont nombreuses, vous le savez. Plus on a d'informations, plus on a de fake news, ou l'inverse. Je ne sais pas quel est le poulet, quel est la poule et quel est l'œuf, mais en gros, on a vu des informations sur le fait que, d'accord, la Covid-19, ça ne résiste pas à la Javel, est-ce qu'il faut s'injecter, comme avait dit, par exemple, un président américain, pour se désinfecter les poumons, est-ce qu'il faut s'injecter de la Javel, ce qui n'avait aucun sens. Là, il y a eu ce genre d'informations qui circulaient, du genre, est-ce que je dois laver à l'eau de Javel les pattes de mes chiens qui rentrent du jardin. Et enfin, en fait, on ne sait pas très bien. Par exemple, pour la Covid-19, c'est pour ça que je prends cet exemple, c'est que c'est tellement récent qu'au début et encore aujourd'hui, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas très bien. C'est-à-dire, on sait bien que c'est un virus qui se répand extrêmement facilement et que donc il faudrait faire attention au maximum et puis utiliser des protocoles, enfin des manières de faire qu'on n'a jamais. Qui sont extrêmes, mais de là à passer à la Javel tout ce qui bouge, comme il y a eu des tas d'affaires, est-ce que lorsque je vais faire mes courses, quand je reviens, est-ce qu'il faut que je laisse 3 heures dans ma voiture pour éviter que le virus se transmette, ou est-ce qu'il faut... Bon, on voit que, en fait, c'est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est facile de dire, oh waouh, et qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les gens, ils vont laver à l'eau de Javel les pattes de leur chien. Ah, c'est-à-dire, en fait, si c'est une maladie Covid-19 qui est effectivement mortelle pour un certain type de population et puis qui laisse des traces pour d'autres personnes dans la population, il faut effectivement se réfléchir à ce qu'on fait. Alors, malheureusement, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Sur un événement aussi nouveau que celui-là, on est obligé de procéder par essai-erreur. Au début, on disait pas de masque, après on a dit des masques, après la Javel, on a dit il fallait en mettre, maintenant on dit c'est pas totalement, ça fait pas partie des gestes barrières, hein. Il y a des barrières plus simples que de mettre de la Javel sur les pattes de ses chiens. C'est facile de se marrer ou de se comment dire, de pointer du doigt la fake news comme un événement qui serait évident, facile à décoder. C'est trop facile de trouver une sorte de bouc émissaire.
Comme vient de le dire Pascal Froissart, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à Paris 8 et docteur en communication, on peut considérer les fake news comme des rumeurs à l'échelle des réseaux sociaux. Cela est dû au flux ininterrompu d'informations nous parvenant, ce qui nous surcharge, c'est l'infobésité. Heureusement, des actions sont mises en place pour lutter contre les fake news. De nombreux organes de débunkage ont notamment vu le jour au sein de grandes rédactions. C'est ce que nous explique Ioana Manolescu, directrice de recherche à l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique et professeure chargée de cours à l'École Polytechnique.
Pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent dans cette partie-là de Google, nous, informaticiens, nous avons appris qu'il est techniquement assez difficile, assez ardu pour les algorithmes chez Google d'apparier une nouvelle affirmation qui sort sur Internet, par exemple un nouvel article, avec une vérification précédemment déjà faite. Donc cet appariement, qui est fait par des algorithmes, nécessite une bonne compréhension du langage naturel de l'affirmation et du fact-check. Et ce sont des algorithmes qui n'étaient pas parfaits. Et les utilisateurs en général attendent de Google une extraordinaire précision, parce qu'on a vu qu'au moins pour la fonctionnalité recherche Internet, il est très bon. Et Google s'est pris des tuiles lorsqu'il avait mis en avant les fact-checks, même à côté des résultats des recherches standards sur Google. Du coup, ils l'ont mis dans une toolbox. Donc, vous y avez toujours accès, mais il faut vraiment que vous vouliez le chercher. C'est-à-dire, ça demande plus d'efforts de l'utilisateur. Et on vous demande de fournir vous-même les mots-clés, ce qui cache pour l'instant l'imperfection des algorithmes. Donc, Google se fait ridiculiser en sortant un fact-check pour une affirmation qui n'était pas vraiment liée. Et un humain avait beaucoup de facilité à voir cela, et pour l'algorithme, c'était moins facile. Donc, quelque part, pour l'instant, Google entretient et finance pas très bien une communauté de fact-checkers mondiales, et ils donnent accès à leurs fact-checks, mais c'est à vos risques et périls, si vous voulez y aller. Il est important de dire qu'ils ont aussi une fonctionnalité qui permet de faire la vérification d'images. Donc ça, c'est un exemple très cocasse où une fausse nouvelle a été diffusée qui disait qu'il y a des requins qui nagent sur l'autoroute au Texas, tellement il y a eu d'inondations. Et en fait, c'est complètement faux. Et là, vous avez la possibilité de faire vérifier par Google des images sur lesquelles vous vous posez une question. Donc, c'est un outil qui existe aujourd'hui. Le niveau de sophistication des fausses, de la génération de fausses images ou du fait de fausser des images et des vidéos réelles est relativement élevé. Et quand on voit quelque chose de vraiment étrange, il ne faut pas se lancer à la redistribuer parce qu'il y a des faux qui sont vraiment bien faits. Donc, je vais juste mentionner rapidement la différence entre vérification de faits et détection de fausses nouvelles. Il y a une différence fondamentale qui est la vérification de faits suppose une source d'information en background, donc suppose une vérité commune dans laquelle on vérifie. Si vous n'êtes pas d'accord sur une source d'information de référence ou une référentiel commun, il n'est pas possible de faire du fact-checking parce qu'on n'admet rien comme élément de preuve. Si rien ne peut servir de preuve, il ne peut pas y avoir de preuve. En contraste, ce qu'on appelle détection de fausses nouvelles englobe un tas de méthodes et d'algorithmes qui sont souvent des algorithmes d'intelligence artificielle et qui, étant donné un contenu, un article ou une vidéo, vont réfléchir et vont vous dire « Écoute, moi, je pense à 80% de probabilité que c'est faux. » Par contre, ils ne consultent aucune source. Et s'ils ne consultent aucune source, comment ils font? Eh bien, ils regardent certains éléments techniques. Par exemple, si c'est une image, on peut comprendre dans l'image si elle a été modifiée de façon suspecte. Ou alors, on peut trouver que le texte qui est présenté a certaines caractéristiques de langage, par exemple un langage émotionnellement très chargé, plein de points d'exclamation, plein de points d'interrogation. qui font penser que celui qui l'a écrit tient absolument à être lu et à impressionner son public plutôt que de le convaincre par la raison.
Même si les organes de débunkage et de fact-checking sont de plus en plus nombreux et popularisés, cela peine à réparer tous les dégâts laissés par les fake news. En effet, le partage d'une fake news est rapide et viral sur Internet. Et inversement, vérifier son contenu prendra des heures de travail, et les fact-checking arrivent bien souvent trop tard.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.